La France dans la guerre. Quelles sont les conséquences de la défaite de 1940 pour la France? A. L'occupation et le régime de Vichy. 1. Un régime né de la défaite. En mai-juin 1940, l'invasion de la Wehrmacht entraîne la fuite de millions de Français vers le sud et l'ouest du pays, c'est l'exode. Le 16 juin, le maréchal Pétain, favorable à l'arrêt des combats, succède à Paul Reynaud à la présidence du Conseil. Le 22 juin, l'armistice est signé à Retonde, près de Compiègne, avec des conditions difficiles pour la France. Versement à l'Allemagne de frais d'occupation très élevés, occupation du nord et de l'ouest du pays par la Wehrmacht, déportation des prisonniers de guerre en Allemagne pour y travailler. Pétain s'installe avec son gouvernement à Vichy dans la zone libre. Fort de sa popularité, il se fait accorder par le Parlement les pleins pouvoirs pour modifier la Constitution, 10 juillet. Puis, les 11 et 12 juillet, il signe des actes constitutionnels qui lui donnent les pouvoirs exécutifs et législatifs. Devenu chef de l'État français, il nomme Pierre Laval vice-président du Conseil. 2. Un régime autoritaire et réactionnaire. Installé à Vichy, Pétain instaure un régime autoritaire et anti-républicain. Les élections sont supprimées. Il contrôle la presse et la radio et organise autour de sa personne un culte de la personnalité. Il fait arrêter les opposants politiques. Les anciens dirigeants de la Troisième République, Léon Blum, Édouard Daladier, sont jugés dans un procès retentissant à Riom, février-avril 1942. Pétain veut régénérer la France par une révolution nationale résumée dans la nouvelle devise « Travail, famille, patrie » et qui consiste en un ensemble de mesures conservatrices et réactionnaires. Il glorifie le travail traditionnel, l'artisanat, le travail de la terre. Il tente de recréer des corporations qui réunissent patrons et ouvriers de la même profession et interdit les syndicats et les grèves. Il remet à l'honneur la religion catholique ainsi que la famille traditionnelle en poussant les femmes à revenir au foyer et en rendant le divorce difficile. Enfin, les Juifs sont exclus de la communauté nationale. Le 3 octobre 1940 et le 2 juin 1941, deux statuts leur interdisent les métiers de la fonction publique et d'autres professions. Pour défendre son régime, Pétain s'appuie sur les fonctionnaires, des organisations de jeunesse, mouvement des Compagnons de France, et la Légion française des combattants qui regroupe les associations d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale. 3. Vichy et la collaboration. En octobre 1940, poussé par Laval, Pétain rencontre Hitler à Montoire, où il s'engage dans la collaboration avec l'occupant. Dès lors, l'État français livre à l'Allemagne les Juifs étrangers de la zone libre, alors que la police française aide les Allemands à les arrêter dans la zone occupée. Le 16 juillet 1942, près de 13 000 Juifs étrangers, hommes, femmes, enfants, sont raflés dans la région parisienne et conduits au vélodrome d'hiver avant d'être déportés à Auschwitz, rafle du Veldiv. En novembre 1942, la Wehrmacht envahit la zone sud. Des collaborationnistes entrent alors au gouvernement. En janvier 1943, Laval crée la milice, confiée à Darnan et formée de volontaires, pour prêter main-forte aux Allemands. Puis en février, pour répondre à la demande de main-d'œuvre des nazis, il met en place le service du travail obligatoire, STO. L'État augmente aussi les livraisons de produits agricoles et industriels au Reich. En revanche, la collaboration militaire se limite à l'entrée de quelques milliers de volontaires français dans la Waffen-SS. B. Les combats de la résistance. 1. De Gaulle et la France libre. Le 18 juin 1940, refusant l'armistice voulu par Pétain, le général de Gaulle lance un appel à continuer le combat à la radio de Londres, la BBC. Il fonde la France libre et recrute les Forces françaises libres, FFL, une armée composée de soldats ayant échappé aux Allemands, de civils venus de France et de troupes coloniales de l'Afrique équatoriale française, AEF, ralliées à la France libre. Les FFL se battent sur différents champs de bataille sous le commandement britannique. D'autres colonies se rallient peu à peu à la France libre et le nombre de recrues, hommes et femmes, passe de 10 000 à la fin de l'année 1940 à 54 000 en juillet 1943. Pour être mieux reconnu par les Alliés, de Gaulle forme un gouvernement, le Comité national français, CNF, en septembre 1941. En juin 1943, après le débarquement américain en Afrique du Nord, le CNF laisse place au Conseil français de libération nationale, CFLN, qui s'installe à Alger. Il est dirigé au début par le général Giraud, apprécié des Américains, et le général de Gaulle, mais ce dernier en devient le seul chef en septembre 1943. 2. La résistance intérieure. En 1940, la population française fait encore confiance à Pétain, mais quelques individus forment des mouvements de résistance qui s'opposent aux Allemands et au régime de Vichy, Combat, Libération Sud, Franc-Tireur. Ils font de la propagande en diffusant des tracts et des journaux clandestins, préparent des évasions vers la zone libre. Les réseaux de résistance, au service des Britanniques ou de la France libre, se chargent quant à eux de missions particulières comme le renseignement, des actions de sabotage ou le sauvetage de pilotes. L'invasion de l'URSS par l'Allemagne entraîne les communistes dans la résistance. Ceux-ci entrent dans le Front national et sa branche armée, les francs-tireurs et partisans, FTP, qui organisent des attentats contre les Allemands. À partir de 1943, beaucoup de jeunes fuyant le STO gagnent les maquis. Ces derniers recourent à la guérilla armée contre les troupes d'occupation allemande et la milice. En 1941, de Gaulle envoie Jean Moulin en France pour unifier la résistance intérieure et la placer sous son autorité. En mai 1943, Moulin préside la première réunion du Conseil national de la résistance, CNR, qui comprend des délégués de tous les mouvements de résistance, d'anciens partis politiques et de syndicats. Le CNR reconnaît De Gaulle comme seul chef de la résistance. 3. La libération de la France. En juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie, puis en août en Provence avec les FFL. Les forces françaises de l'intérieur, FFI, qui réunissent tous les résistants armés, se mettent alors à harceler les troupes allemandes et à multiplier les actes de sabotage, destruction des voies ferrées, des poteaux télégraphiques. En août 1944, Paris est libéré par les résistants de Paris et la division FFL du général Leclerc. Le 26 août, le général de Gaulle descend triomphalement les Champs-Élysées. Dirigé par De Gaulle, le gouvernement provisoire de la République française, GPRF, succède au CFLN le 5 juin 1944. Après la libération, il s'installe à Paris et rétablit la République. Laval est jugé et condamné à mort, mais Pétain est gracié par De Gaulle et emprisonné à l'Île-Dieu.